Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé, Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé. Le travail, c'est la santé, le sport, c'est aussi la santé, et c'est pour cela que le sport améliore la vie au travail. C'est la raison pour laquelle Sébastien Bécard a créé il y a 10 ans Gymlib pour permettre aux entreprises d'améliorer la qualité de vie de leurs collaborateurs au travail. Le sport intéresse aussi la MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, et ses 4 millions d'adhérents. Outre ses nombreux services, elle a entrepris de promouvoir l'olympisme par l'intermédiaire de 8 personnalités sportives. Son président, Mathias Savignac, est avec nous sur le plateau de Check-up Santé. Les maladies inflammatoires sont à l'origine de nombreuses maladies, en particulier l'arthrose, et les traitements ne sont souvent que symptomatiques. La biotech Peptinov propose une voie différente, l'immunothérapie active, et son CEO, René Azoulay, vient nous expliquer les raisons de l'importante levée de fonds qu'il a réalisée pour démarrer les essais cliniques. Check-up Santé, c'est parti. Sébastien Bécard, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous fêtez cette année donc les 10 ans de Gymlib que vous avez fondé. Pour vous, travail et activité physique sont vraiment indissociables?
Ah oui, c'est indissociable surtout aujourd'hui, plus que jamais, après la pandémie à laquelle on a assisté il y a quelques années. Aujourd'hui, on assiste à une pandémie de la sédentarité. Les gens aujourd'hui...
Avec qui a été aggravée par la
totalement, la ce COVID. Phénomène a été aggravé. Les gens aujourd'hui peuvent commander leur nourriture assis dans leur canapé, regarder Netflix et être en télétravail. Donc la sédentarité s'est installée, c'est un vrai fléau et on n'en parle pas assez. Donc plus que jamais, c'est important. Et ce que je dirais aussi, c'est que l'entreprise y trouve aussi finalement son compte. D'abord, c'est une obligation légale. L'article L41-21 rappelle que c'est l'obligation de l'employeur de préserver la santé physique et mentale. Mais par ailleurs, c'est aussi son intérêt parce qu'elle, ça lui permet d'améliorer son image et de renforcer la cohésion au sein de ses salariés.
Donc, d'où l'idée de proposer à ces entreprises un service original.
Exactement. Cette idée-là nous est arrivée, en fait, pas dès la création de l'entreprise, mais au bout de quelques années, on s'est rendu compte que pour permettre plus efficacement de faire du sport aux gens, il fallait lever les principaux freins à la pratique sportive. Et nous, ce qu'on identifie comme principaux freins à la pratique sportive, c'est trouver la motivation nécessaire à aller faire du sport. Et en entreprise, on a...
Et faciliter l'accès
exactement. Et en entreprise, on est dans un endroit où on a le meilleur moyen de lever ces freins de motivation. On pourra détailler.
Alors, et ça a l'air de marcher à première vue, puisque combien d'entreprises vous font confiance?
Aujourd'hui, on a atteint la barre des 1000 entreprises clientes, et pour autant, on a traversé une période évidemment difficile pendant le Covid, où les salles de sport partenaires étaient fermées, mais on a dépassé cette barre assez symbolique des 1000 entreprises avec des clients grands groupes type Carrefour ou des cabinets de conseil comme Deloitte, Price, EY, mais également pas mal de start-up qui ont une vraie culture de l'expérience collaborateur en proposant l'équilibre vie pro vie perso le plus adéquat possible.
Et combien d'activités sportives vous proposez?
Il y a aujourd'hui à peu près 200 activités différentes. Notre but, même si Gymlib fait penser qu'on est que un réseau de salles de sport, non, ça va bien au-delà des salles de sport. On a également des studios de boxe, de yoga. On propose aussi l'accès à des centres d'escalade, à des...
Donc du plein air aussi.
De plein air aussi, bien sûr. On a des centaines de terrains de tennis, des centres aquatiques et même du golf. Donc vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts et c'est notre mission.
Même s'il n'y a pas que les salles, il y a quand même 4000 salles.
Exactement, il y a 4000 infrastructures sportives partout en France, en Belgique aussi. Et notre but pour l'entreprise, c'est de séduire le maximum d'utilisateurs possible. On doit rapprocher les gens d'une pratique, d'une activité physique et sportive régulière. Et donc c'est en proposant la plus large variété de services qu'on
Alors donc c'est sous forme d'abonnement envers l'entreprise, c'est bien ça?
Exactement.
Comment ça marche alors?
On propose aux salariés une offre totalement innovante qui permet avec un seul abonnement d'avoir un accès à plus de 4000 infrastructures sportives sans être engagé nulle part. Le principe repose sur un cofinancement entre l'entreprise et le salarié. Pourquoi ? Parce que là, on touche le deuxième frein majeur à la pratique sportive, c'est que parfois les gens n'ont pas le budget pour aller faire du sport. Et donc, que ce soit le CSE ou les RH, on a des leviers de cofinancement et ensuite le salarié, lui, peut, avec son abonnement, aller le lundi aller faire une séance de yoga, le mardi faire un peu d'escalade avec ses collègues et le week-end faire un peu de golf si ça
alors, mais pourquoi les salles aussi sont intéressées
Alors, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que quand Gymlib est installé dans une entreprise, c'est un vrai programme qui est destiné à encourager la pratique sportive au sein de l'entreprise. Et donc, c'est pas simplement 5 ou 10% des salariés qui vont faire du sport, mais c'est plutôt 20 à 30% des salariés qui, grâce à cette innovation de service et grâce au cofinancement de l'entreprise, vont faire du sport. Et donc, pour la salle de sport, c'est naturellement une augmentation de la taille du marché puisque c'est de nouveaux clients qui viennent, grâce à leur entreprise, découvrir leur club.
Alors, il y a aussi l'appli Gymlib. Qui permet de pas mal de services dont deux importants, c'est ça ?
Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Gymlib est destiné 100% aux entreprises et aux salariés d'entreprise, et non pas au grand public. Et donc, il y a quelques années, on nous disait Gymlib, c'est vraiment génial pour avoir un accès individuel aux salles de sport le week-end, près de chez soi, en déplacement, en vacances, etc.
Mais c'est bien quand il y a une émulation.
Mais essayer de faire en sorte que dans mon entreprise, une fois que je le mets en place, les salariés idéalement et faire du sport ensemble. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus et c'est vrai qu'aujourd'hui dans les fonctionnalités qu'on a sorties récemment, il y a ce qu'on appelle le partage de séances et qui permet aux gens de partager une séance qu'ils prévoient de faire pour que d'autres personnes intéressées par le même sport puissent les rejoindre et donc faire du sport ensemble.
D'accord, il y a ce qu'on appelle les challenges de pas.
Il y a également, c'est vrai, les challenges de pas aussi, qui est une fonctionnalité très intéressante dans la mesure où elle permet d'aller toucher des gens qui ont simplement envie de faire de la marche ou de la course à pied, qui sont donc pas forcément dans des structures partenaires de Gymlib, mais pour autant ils ont envie de participer à ça. Et donc le principe c'est quoi ? C'est que tous les pas que les salariés vont faire dans la journée, dans le mois, vont être comptabilisés et remontent, et il y a un classement. Alors, les entreprises aiment bien créer des équipes, etc. Et évidemment, c'est un moment clé de la vie de l'entreprise.
Donc, en gros, c'est une motivation aussi bien individuelle que collective.
Exactement. Et c'est important pour nous de travailler sur ces deux aspects.
Bien sûr. Donc, vous êtes installé, pour finir, vous êtes installé à Paris. C'est quand même assez rare.
Oui, on est installé dans le 11e. On a
avec 90 collaborateurs.
Ouais, aujourd'hui, on a 90 collaborateurs.
C'est rare quand même d'être installé en intramuros, Paris intramuros. Vous faites un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros.
Oui, aujourd'hui, on réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et on vient de réaliser une fusion avec un acteur allemand. Et donc, c'est ça les next steps pour Gymlib. On a un acteur qui est leader en Allemagne avec lequel on a.
Gros leader.
Un gros leader, qui est vraiment plus gros que nous aussi et qui a la même mission que nous de mettre plus de salariés au sport.
Et donc, ça va vous permettre aussi de vous développer.
Voilà, ensemble, on souhaite devenir le leader européen et demain probablement une introduction en bourse, on verra.
Merci beaucoup Sébastien Mécard, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites.
Merci.
On va à présent accueillir Mathias Savignac, qui est le président de la MGEN.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Mathias Savignac, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous présidez la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, que vous connaissez par cœur puisque vous y travaillez depuis 16 ans déjà, depuis 2007, c'est bien ça ?
Absolument.
Et vous êtes vice-président délégué du groupe Vive, auquel appartient la MGEN. Donc c'est un groupement qui est tout à fait assez récent, il y a 2 ans à peu près.
Non, c'est un groupement qui existe depuis 2017 et qui regroupe des mutuelles comme Harmonie Mutuelle, la MNT, la Mutuelle Nationale des Territoriaux, Mutuelle Marguerillard qui œuvre en Guadeloupe, et puis la MGEN principalement, et qui ont décidé de se regrouper pour mutualiser des moyens, des projets, des ressources.
C'est un plus, justement, de mutualiser.
Absolument. Ça permet d'atteindre des projets et de réaliser des objectifs, d'atteindre des niveaux de mutualisation suffisamment importants pour faire à la fois des économies d'échelle et proposer des dispositifs à nos adhérents plus innovants.
D'accord, mais vous restez quand même autonome, évidemment.
On reste autonome, pas indépendant.
Alors, vous gérez donc le régime obligatoire d'assurance maladie de nombreux fonctionnaires, notamment l'éducation nationale, mais pas que. Oui, pas que. Vous avez aussi d'autres fonctionnaires et des adhérents qui ne sont pas fonctionnaires aussi.
Alors, on a des adhérents qui ne sont plus fonctionnaires, les retraités notamment de l'éducation nationale. Et puis, dans des champs de l'ESS notamment, nous couvrons beaucoup d'associations, de structures de l'économie sociale et solidaire en contrat collectif. Et puis, nous avons aussi des formules pour accueillir tout un chacun, quelle que soit sa profession.
Alors, on parle beaucoup de cette réforme PSC pour les fonctionnaires, participation à la protection sociale complémentaire. Dites-nous un petit peu ce que ça veut dire, cette PSC.
Ça veut dire que, comme tous les salariés du privé, qui bénéficient de la part de leur employeur d'une participation à la complémentaire santé, demain, tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État bénéficieront de leur employeur, l'État en l'occurrence, d'une prise en charge à 50% de leur cotisation pour la complémentaire santé à travers des contrats collectifs obligatoires.
D'accord, mais qu'est-ce que ça change concrètement pour l'adhérent ?
Alors, pour l'adhérent, ça change quelques éléments notables. Jusqu'ici, quand on est dans une mutuelle santé comme la MGN, on bénéficie d'un contrat individuel et facultatif. Et donc, ce sont les assemblées générales qui regroupent les représentants des adhérents qui décident du niveau des prestations, du type de prestation que la mutuelle doit prendre en charge et du niveau de cotisation. Demain, c'est l'employeur qui fixera avec les organisations syndicales par négociation, qui fixeront le cahier des charges et le contenu des offres, et le tarif sera calculé en fonction de ce niveau de prise en charge.
D'accord. Et ce qui fait que vous travaillerez aussi avec d'autres mutuelles, vous alignerez avec d'autres mutuelles, d'autres assurances, non ?
Alors, enfin, aujourd'hui, on réfléchit à comment les choses vont se passer, parce que finalement, c'est une ouverture à la concurrence. Chaque ministère va publier un appel d'offres. Des structures mutualistes ou non y répondront. La MGN répondra sur son champ ministériel, bien évidemment, mais répondra aussi avec d'autres mutuelles de fonctionnaires sur d'autres champs ministériels, ce qui permet deux choses. Sécuriser les mutuelles de fonctionnaires entre elles et diversifier la source des adhérents potentiels, parce que aujourd'hui, la MGN, qui est une mutuelle de l'éducation nationale, si demain elle ne dépend que du contrat collectif de l'éducation nationale, ça fait peser sur elle un risque assez important. D'accord. Et donc c'est important de diversifier nos risques et donc d'être en capacité de se développer ailleurs, avec d'autres, mais pas de manière concurrente avec d'autres mutuelles de fonctionnement.
Donc réforme très positive.
Alors positive pour les adhérents, contraignante pour les mutuelles, mais c'est aussi une opportunité pour nous, en regroupant des moyens, d'accéder à des projets plus innovants et des solutions pour nos adhérents peut-être plus efficaces demain. Donc oui, il y a du pour, il y a des contraintes, mais c'est du bénéfice aussi pour les adhérents.
Alors on le sait, le sport c'est la santé.
Oui.
On sait que vous menez pas mal d'opérations, notamment avec des sportifs de haut niveau.
Alors historiquement, on a dans notre galaxie de sportifs à la MGN, deux sportifs emblématiques, Martin Fourcade et Marie-Josée Pérec, qui aujourd'hui sont les parrains et les marraines de nouveaux sportifs que nous accueillons. Je cite notamment trois sportifs, sportives qui sont importants pour nous. Laetitia Guapo, qui est championne du monde de 3 contre 3 en basketball, équipe féminine de France, et qui a de grandes chances au cours des Jeux Olympiques 2024 à Paris d'obtenir une médaille. Laurent Chardard, qui est champion du monde en natation paralympique de 50 mètres papillon. Et puis Mejdi Chlak, champion du monde d'escalade, sur bloc notamment. Et donc, tous trois ont de grandes chances de médailles pour la France aux prochains Jeux Olympiques.
Donc, ce sont un peu vos ambassadeurs, un peu?
Alors, ce sont nos ambassadeurs, avec des parrains et des marraines. Mais on a choisi, on a travaillé avec des sportives et des sportifs qui portent aussi un message d'engagement dans la société, pour le sport, pour l'inclusion, pour l'égalité femmes-hommes, pour la santé des femmes, et qui véhiculent et qui portent de vrais messages, pas simplement des sportifs performants, mais des sportifs engagés.
Les valeurs de l'olympisme.
Exactement, et du mutualisme par la même occasion.
Évidemment. Un autre sujet qui vous préoccupe aussi, c'est la santé mentale. En particulier dans l'enseignement, non? J'ai lu une enquête qui disait qu'il y avait quand même plus de d'arrêt maladie dans l'enseignement qu'ailleurs.
Je ne saurais pas le factualiser. Ouais. Pour autant, depuis la crise Covid, on a observé un recours beaucoup plus important aux consultations psy. D'ailleurs, il y avait une initiative de place de toutes les complémentaires santé durant le premier confinement pour prendre en charge 4 consultations de psychothérapie à hauteur de 60 euros et de 4 séances, pour la MGN, sur la première année, ça a consisté en un volume de prestations de près de 20 millions d'euros. D'accord. Ce qui veut dire que des gens qui ne consultaient pas au préalable se sont mis à consulter. Et parmi notre population, on a observé que 70% étaient des femmes, et que plus de 50% étaient des moins de 30 ans. Ça situe la problématique au niveau de la santé des femmes et notamment de notre jeunesse, avec une vraie problématique de prise en charge des pathologies et de la santé mentale au sens large. Oui. Rien que pour l'année 2023, les 4 premiers mois, oui, c'est 10 millions d'euros de consultations psy que la MJeune a remboursé. Je ne présume pas des résultats de ces consultations, mais ça montre un vrai besoin. Une levée de tabou d'ailleurs sur ce que sont les questions autour de la santé mentale. Sans doute un manque d'accès par manque de professionnels ou de créneaux de consultations disponibles. Ce qui m'amène à penser que finalement, de la même manière qu'il y a quelques années, nous avons eu un plan cancer au niveau national, sans doute serait-il opportun d'imaginer un plan santé mentale à l'avenir, parce qu'il y a de vrais besoins et de vraies problématiques à prendre en
charge. Alors justement, vous parliez de pénurie de médecins. Il y a une partie de la population qui n'a pas accès facilement à des médecins. Et vous proposez aussi un service avec deuxièmeavis.fr, le fameux site.
Alors le site deuxièmeavis.fr vient de signer un partenariat avec la MGène, ou la MGène vient de signer un partenariat avec Deuxième Avis. Pour nous, c'est nous mettre en capacité de proposer à nos adhérents un deuxième avis de consultation médicale lié à une pathologie, une maladie spécifique, notamment pour des adhérents ou des adhérentes qui vivraient dans des zones qui ne leur permettraient pas l'accès à un spécialiste, et donc de manière digitale d'accéder à un deuxième avis médical pour à la fois accompagner le médecin traitant ou l'équipe médicale autour du patient, pas dans une logique d'opposition avec le parcours coordonné de santé.
Ça ne heurte pas la sensibilité du médecin.
Ça ne doit pas, puisque simplement s'assurer que pour le patient, sa pathologie ne se transforme pas en une perte de chance, et donc offrir la capacité à tout un chacun d'accéder à des soins et à des diagnostics le cas échéant.
Alors, enfin, donc, c'est le cas de dire, vous occupez aussi vous êtes intéressé aussi par la fin de vie. Absolument. Vous voudriez mieux encadrer, c'est ça, non?
Alors aujourd'hui, vous
avez pas mal de centres aussi. La MGEN a des centres, a des structures de santé.
Alors on a des structures de santé, 62 établissements, et notamment des unités de soins palliatifs. Et il vous aura pas échappé que dans le débat actuel sur la fin de vie, on est, semble-t-il, proche d'une loi qui permettrait une fin de vie libre et choisie. Et donc, on s'est engagé il y a plus d'un an et demi dans ce débat pour favoriser soit l'euthanasie, soit le suicide assisté, selon ce que décideront les parlementaires et les experts. D'ailleurs, il y a une convention citoyenne qui a formulé quelques conclusions fort intéressantes. Mais pour les mutualistes que nous sommes, il est important qu'il y ait une évolution de la loi sur la fin de vie qui permette de respecter le choix des patients de manière éclairée, libre et consentie. Ce qui nous amenait d'ailleurs à produire un manifeste et à proposer la constitution d'un pacte progressiste avec d'autres structures de la société civile organisée pour faire valoir notre contribution au débat. Là aujourd'hui, on sait que c'est un sujet qui peut paraître clivant. Pour autant, les études montrent qu'une majorité, une grande majorité des Françaises et des Français sont pour une évolution de cette loi.
Alors, on pouvait pas finir, mais très rapidement, par la santé des femmes.
Bien sûr.
Oui.
La santé des femmes, pour nous, c'est un sujet majeur. De la même manière que, dans les années 70, la MJeune s'est engagée fortement dans le combat pour l'IVG, pour la contraception des femmes, pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Aujourd'hui, on observe que les différences liées au sexe génèrent bien souvent des inégalités liées au genre, et donc des pertes de chances dans les diagnostics pour les femmes. Ce qui nous a mené aussi à travailler de manière étroite avec la start-up Liv, qui travaille sur la prise en charge de l'endométriose. Et nous avons donc aujourd'hui 1000 femmes mutualistes, adhérentes MGEN, qui participent à un plan de recherche et d'évaluation et d'accompagnement à travers cette application pour mieux faire connaître l'endométriose et donc mieux accompagner les femmes qui en souffrent.
Merci beaucoup Mathias Savignac, président de la MGEN.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
René Azoulay, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes ingénieur de formation.
Oui.
Et vous êtes le CEO de Peptinov depuis 2018. Mais Peptinov existait déjà.
Absolument. Peptinov a été créé par un ami qui est médecin, avec qui j'avais fait mes classes préparatoires. J'avais investi dans Peptinov en 2010, lors de sa création, sans savoir que 8 ans plus tard, j'aurais la possibilité de devenir directeur général. Et l'honneur. Et ce qui représentait pour moi un changement de vie, parce que j'étais ingénieur dans l'aéronautique auparavant.
Et c'était le professeur Jean-François Zaguri qui a fondé Peptinov.
C'est bien ça. Qui est médecin et qui est aussi normalien.
D'accord. Donc vous êtes hébergé, vous aussi vous êtes à Paris.
Oui.
Décidément, c'est très parisien cette émission, cette fois-ci. Vous êtes hébergé à l'hôpital Cochin.
Oui, on a la chance d'être hébergé dans la pépinière d'entreprise Paris-Cochin Santé, qui regroupe une trentaine de biotech et aussi un incubateur pour les start-up.
qui est dirigé par Olivier Amédée Manem.
Exactement.
Qu'on a invité plusieurs fois ici. Donc, ça facilite un peu vos recherches d'être à l'intérieur d'un hôpital?
Oui, ça facilite nos recherches parce que, par exemple, au sein de l'hôpital, il y a une animalerie qui nous permet de faire des tests chez la souris. Et puis aussi, on a eu la chance de faire notre essai de phase 1 arthrose à l'hôpital Cochin où il y a un centre de vaccinologie qui est réputé.
Oui. Alors, donc, vous êtes évidemment, vous travaillez sur les maladies processus inflammatoires, sur les maladies inflammatoires. On sait hein, que de nombreuses maladies sont provoquées ou aggravées par l'inflammation, c'est bien ça?
C'est bien ça, ce qui est particulier dans notre cas, c'est qu'on s'attaque à un type d'inflammation d'abord qui est chronique, donc qui dure, et qui est sournoire, on appelle ça une inflammation de bas grade, elle n'est pas facile à détecter, et nombre de maladies, il y en a une bonne quinzaine qui sont connues, dont l'arthrose, qui démarre par un processus d'inflammation à bas bruit.
Oui, alors c'est vrai que l'arthrose, c'est en général, je dis toujours à mes patients, c'est pas grave, mais ça gâche la vie.
On peut dire, ça gâche la vie de 10 millions de personnes en France.
Ça fait 10 millions de personnes en France?
10 millions de patients, une consultation médicale sur 4, 250 millions de personnes dans le monde, donc ça fait beaucoup de monde. Et aucun traitement curatif.
Et jusqu'à présent, oui, aucun traitement curatif. Pour l'instant, les traitements sont plutôt symptomatiques.
Oui, uniquement symptomatiques, donc on arrive à soulager les patients, mais en général pour une durée limitée. Rien ne marche aujourd'hui, aucun médicament n'est
approuvé. Ça ne freine pas non plus l'évolution de la maladie?
Non.
Parce que c'est purement symptomatique.
C'est le mode de vie qui permet de ralentir cette évolution. Les gens qui ont un mode de vie plus sain réussissent en général à résister plus longtemps.
Bon, il faut faire du sport aussi hein, pour limiter l'inflammation.
Oui, et marcher.
Alors, vous développez justement une technique assez originale, hein, c'est l'immunothérapie active.
Oui.
Alors, dites-nous en plus.
Alors, ça consiste à utiliser les propres ressources de notre système immunitaire pour produire des anticorps qui vont abaisser le niveau de l'inflammation. Donc, tout ce qu'on fait, c'est d'induire chez le patient une réponse anticorps qui va s'attaquer à l'excès, si on peut dire, de la protéine inflammatoire qui provoque cette inflammation à bas bruit et l'abaisser à un niveau non pathologique. Et sans la bloquer pour autant, juste l'abaisser.
Pourquoi sans la bloquer ?
Parce qu'on a besoin de cette protéine inflammatoire en cas d'infection, en cas de blessure. L'inflammation est une bonne chose, elle donne l'alerte. Mais lorsqu'elle dure sans cause, lorsqu'elle se prolonge, ça devient problématique. C'est l'inflammation chronique et particulièrement donc l'inflammation de bas grade qui est d'autant plus sournoise qu'elle est souvent non détectée.
Et comment donc mesurer donc cette variation de l'inflammation, dans le bon sens évidemment?
Alors, en général, on mesure...
Il y a des critères,
mais il y a en particulier une protéine inflammatoire qu'on appelle la CRP.
C-reactive protein.
Exactement, la C-reactive protein. Et lorsque son niveau dépasse 2 mg par litre, on considère qu'on a un état d'inflammation de bas grade. Et l'autre point, c'est que la protéine inflammatoire que nous modulons chez Peptinov stimule l'augmentation de la CRP. Donc, en bridant partiellement cette protéine inflammatoire, on abaisse le niveau de CRP.
Donc, vous êtes évidemment en phase 1, c'est bien ça, pour l'instant?
On vient juste de terminer, début 2023, un essai de phase 1 dont on attend avec impatience tous les résultats. Mais on sait déjà que le principal résultat a été atteint, qui est la tolérance du produit, puisqu'il n'y a eu aucun événement indésirable.
Parce qu'en général, la phase 1, c'est pour savoir si le produit est bien toléré.
Exactement. Mais dans notre cas, en plus, comme on l'a fait chez des patients plutôt que chez des volontaires sains, on va pouvoir avoir des informations très utiles sur l'efficacité de notre traitement. Et bon, on n'a pas encore toutes les informations. On en reparlera dans quelques mois, mais ils sont déjà très encourageants à ce stade.
Alors justement, pour continuer, donc pour démarrer ces essais cliniques, hein, les phases suivantes, donc vous avez fait une grosse levée de fonds.
Oui, on a fait une levée de fonds d'un peu moins de 5 millions d'euros auprès de nos actionnaires existants.
Qui n'est pas la première levée de fonds à première vue?
Non, on a depuis 2018, on a dû lever une dizaine de millions d'euros donc pour financer les phases précliniques auparavant, puis l'essai clinique de phase 1. Et maintenant, donc les fonds vont nous servir à préparer la phase 2. Qu'on espère conduire début 2024.
D'accord, et qui peut durer combien de temps cette phase?
Alors de 2 à 3 ans, mais avec des résultats intermédiaires. Donc on espère déjà savoir à mi-parcours si on a une réelle efficacité, parce qu'on aura environ 200 patients, enfin en tout cas c'est notre objectif. Donc on devrait savoir à mi-parcours si le produit soulage bien les patients et met un frein à l'inflammation chronique.
Parce que ça agit sur l'inflammation, mais vous avez vu aussi que ça pouvait agir sur le niveau de douleur.
Oui, c'est fondamental, parce que l'arthrose, c'est la destruction du cartilage, ça s'accompagne de douleurs, donc si on se contentait d'arrêter le processus de destruction, mais que les patients continuent à souffrir, on n'aurait fait que la moitié du boulot.
Pour finir, vous avez des concurrents dans ce domaine ?
Alors oui, il y a pas mal de sociétés qui travaillent dans l'arthrose. D'ailleurs, j'hésite à les appeler concurrents parce que 10 millions de personnes, rien qu'en France, ça fait beaucoup de monde. Donc on n'est pas de trop à rechercher des techniques pour bloquer la maladie. Mais je dirais qu'en gros, vous avez d'un côté ceux qui travaillent sur les aspects symptomatiques, donc soulager la douleur sans provoquer les effets indésirables des administrations prolongées. Et puis de l'autre, vous avez des thérapies cellulaires qui visent à stimuler la régénération du cartilage. Et je dirais que ces thérapies se situent plus en aval que nous. Mm-hmm. Nous, on est plutôt en amont. On bloque l'inflammation pour éviter la destruction du cartilage.
Eh bien, on souhaite bonne chance à vos essais cliniques. On espère que ça se passe bien jusqu'à la fin.
Merci beaucoup,
Fabien. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.